ramasse un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Un livre, oui, mais quel livre ? Avec l'Oiseau Délire, nous sommes là pour vous faire partager nos coups de cœur. Et aujourd'hui, c'est Annie qui va vous parler. Bonjour à tous.
Bonjour. Au XIXe siècle, Heinrich Heine, un poète allemand, écrivait « Ceux qui brûlent les livres finissent tôt ou tard par brûler les hommes ». Deux très bons romans pour adolescents abordent ce thème et je vais vous les présenter aujourd'hui. Tout d'abord, « Blackout » de Sam Mills aux éditions Naïve. Dans un futur très proche, en Angleterre, un attentat très meurtrier a été fait par de jeunes adolescents et cet attentat a été inspiré par un livre. Aussi, l'État a pris des mesures répressives effrayantes. Tout est contrôlé. Il y a des caméras partout. On est écouté partout et les livres sont bien sûr les premiers mis en cause. Certains sont interdits, comme la Trappe-cœur. D'autres sont réécrits. On enlève tout ce qui peut faire réfléchir dans ces livres. Il ne reste plus rien de leur substance. Et notre jeune héros, Stéphane, est le fils d'un libraire. D'un libraire amoureux des livres, amoureux des mots. Et Stéphane est très mal à l'aise parce que en classe, au collège, on lui inculque des notions que son père n'applique pas, que son père lui fait découvrir d'autres choses avec les livres. Il est très, très mal à l'aise. Et il est d'autant plus mal à l'aise qu'un jour, son père héberge un romancier qui est recherché pour avoir publié un roman qui est non seulement recherché, mais qui a été condamné à mort. Le romancier est logé dans un petit réduit juste à côté de la chambre de Stéphane et il est vraiment très mal à l'aise. Et cela se sent lorsqu'il est au collège, si bien que sa professeure de français arrive à le faire parler. Et quand son père est arrêté, il se sent responsable de son arrestation. Son père est arrêté, envoyé sur un bateau où il est torturé, un bateau-prison. Et Stéphane, lui, est envoyé dans une institution. Une institution où on essaie lavage de cerveau, pilule de bonne conduite, un petit peu de sévices corporels pour le remettre sur le droit chemin. Et ensuite, il est confié à une famille d'accueil. Famille d'accueil où il se sent tout d'abord très bien. Et puis, peu à peu, il va se rendre compte qu'il est manipulé. Son avantage dans cette famille, c'est qu'il pourra lire dans leur intégralité des livres réécrits. Et il verra la différence entre les lectures que l'on propose au collège et les lectures de ces livres. Et puis, finalement, il arrivera à s'échapper, aidé par Omar, le romancier que son père avait hébergé. Leur but, essayer de faire évader son père. Mais est-ce qu'Omar est vraiment un allié ? On se le demande au fil du temps. Sam Mills nous a fait découvrir là un roman qui se lit comme un thriller. On est emporté, on a envie de savoir ce qui se passe. Effectivement, on aborde le problème de la censure, de la dictature, mais vraiment, on est complètement emporté par ce roman. On a envie de savoir comment ça va se terminer, si Stéphane va s'en sortir, si son père va être libéré. C'est passionnant. Alors, un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Je n'ai pas faim et j'ai couru dans ma chambre. Là, je me suis assise sur le lit en tremblant. Je ne supportais pas de parler à qui que ce soit pour l'instant. Il fallait que je démêle tout cela par moi-même. Derrière la fenêtre, un lampadaire projetait des vaguelettes de lumière ambrée sur mon couvre-lit. J'ai ouvert 1984. Je ne revenais pas de la différence avec la version que nous avions lue en cours. J'avais toujours pris le mot « propagande » pour un terme positif. Il signifiait que le gouvernement publiait des articles pour nous avertir à ce que préparaient les terroristes. Mais dans cette version, on comprenait que le mot pouvait avoir un versant plus sombre. Car Winston, qui travaille pour le gouvernement, doit falsifier des données et des articles pour faire de la propagande. Du coup, je me suis demandé si l'adjectif orwellien dont Mrs. Kay nous avait dit qu'il qualifiait les gens qui sont heureux de travailler pour l'État, avait pu vouloir dire complètement autre chose autrefois. Par moments, la lecture de l'ouvrage me perturbait sérieusement, au point que je n'étais pas loin de le jeter à la poubelle et de reprendre une pilule de bonne conduite pour effacer tout cela. Ce n'était pas tant l'intrigue qui me choquait, ni les personnages. C'était la manière dont Orwell maniait les mots. Par exemple, il y avait dans cet exemplaire un corps gouvernemental qui s'appelait le ministère de l'amour et qui se chargeait de torturer les gens. J'ai compris alors qu'on ne pouvait pas se fier aux mots, qu'ils pouvaient être aussi dangereux que des bombes et aussi trompeurs que le brouillard. On peut les utiliser comme des pièces. Lancez-les une fois et vous tomberez sur pile. Lancez-les encore et vous verrez une face. Quand je suis arrivée au passage où Winston est torturé, j'ai eu envie de vomir. Il est envoyé dans un endroit nommé la chambre 101, où les prisonniers sont soumis à leurs pires cauchemars. Pour Winston, ce sont les rats. Je me suis demandé quel avait été le pire cauchemar de ma mère. Je me suis forcée à lire tous les mots sans exception, parce qu'en sauter me paraissait mal, tout comme prendre une pilule de bonne conduite. Une fois le livre terminé, j'étais déroutée et un peu migraineuse, mais je ressentais aussi un soulagement dans mon cœur. La présence d'un savoir nouveau, qui risquait de me déstabiliser au début, mais me consolerait avec le temps. J'ai compris à ce moment-là ce que mon père tentait de m'enseigner depuis le début. Les livres disaient peut-être des mensonges, les mots étaient peut-être ambigus, mais la plus grande des fictions pouvait révéler les plus grandes vérités d'une manière dont les journaux sont incapables. En tournant la dernière page, je me sentais étrangement proche de mon père. Je savais que c'était son roman préféré. En l'appréciant, j'avais la sensation qu'une compréhension muette passait entre nous. Alors, la tristesse s'est abattue sur moi. Je n'avais pas compris et je l'avais trahi, je l'avais livré à l'État. Pour ce que j'en savais, ils étaient peut-être en train de lui faire la même chose qu'à ma mère en ce moment, le torturer à mort. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre, j'ai écarté les rideaux noirs. J'ai contemplé le collier de lumière dorée qui scintillait au centre de Liverpool. Juste derrière, c'était la mer et le bateau prison où mon père était enfermé. « Tiens bon, lui ai-je dit dans ma tête. Je t'en prie. Tiens bon, on va venir te chercher. » L'autre roman, c'est « Le quatrième soupirail » de Marine Sabine Roger, paru aux éditions Thierry Magnier, il y a déjà assez longtemps. C'est un roman que j'aime beaucoup et celui-ci nous plonge dans l'Amérique du Sud. C'est plutôt un retour en arrière parce que c'est sûrement un roman qui fait référence au Chili. C'est un adulte qui revient sur le lieu de son enfance. Il recherche dans la ville où il a vécu un soupirail où chaque soir il s'asseyait, il s'accroupissait pour lire des poèmes. Donc au début, on repart dans le temps, quand il était adolescent, que son père résistait en divulguant de la poésie révolutionnaire. Il éditait des recueils de poésie qu'il diffusait. Chez lui, les poètes se réunissaient pour essayer de refaire le monde. Et un jour, bien sûr, puisqu'il y a dictature, puisque les livres sont interdits, on débarque chez eux. Le père avait prévu un endroit pour que notre jeune héros, Pablo, puisse se cacher et lui est emmené avec beaucoup de violence dans un camion. Ce jeune garçon va rester enfermé dans ce réduit très étroit pendant 2 jours, comme il l'avait promis à son père, et puis il va sortir. Et là, il va être pris en charge par des résistants, ceux qui divulgue aussi de la poésie, mais ceux qui résistent comme ils peuvent à cette dictature qui torture, qui tue, qui emmène les gens sans raison. Et grâce à eux, il va réussir à retrouver où est enfermé son père. Son père qui est dans un endroit où on laisse les gens le temps de les torturer jusqu'à ce que la mort s'en suive. Et grâce à ses résistants, il va réussir à se faire embaucher aux cuisines où il fera la vaisselle, juste à côté du lieu, l'atelier, où son père est torturé. Et il arrivera à communiquer avec son père le soir. Il sait dans la pièce dans laquelle il est enfermé. Et comme son père aimait la poésie, il va, lui qui refusait tous ses mots, apprendre des poèmes pour les réciter le soir à son père. Son père qui, de jour en jour, a plus de mal à le retrouver, à simplement s'approcher du soupirail pour écouter les poèmes que son fils lui dit, lui lit, et surtout cette tendresse que cela lui apporte, cet espoir, même s'il sait que pour lui tout est fini. C'est un roman très émouvant, très 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 fort, que l'on a du mal à lâcher. Contrairement à Blackout, c'est pas du tout un thriller, c'est vraiment un roman d'atmosphère, de résistance. Et puis peut-être est-il plus émouvant aussi parce que l'on sait que des choses comme ça se sont produites. Un extrait de ce roman. Ce soir-là, moi qui me foutais bien de la littérature pour parler seulement, je te raconte les poèmes sauvés du feu. Je cite de mémoire. Demain, mon fils, tout sera différent. Il y a ton silence attentif, puis ta voix hésitante, qui s'assure à la mienne, ta voix qui lentement s'affermit, m'épaule à l'unisson, et c'est toi qui me réconforte. Tu ne peux pas savoir comme ça m'aide d'entendre ça. Je crois que ça redonne un sens, une raison. Les mots, ta seule ultime liberté. Ces poèmes, tu les avais choisis, imprimés, partagés. Ils étaient le dernier cadeau que je pourrais te faire. Je n'abandonnais pas l'envie de te sortir de là. Mais ta libération, c'était la part du rêve, et ta mort, le destin scellé. J'avais beau faire, je ne pouvais plus l'ignorer. Tu voudrais que je te recopie un poème ? Dis-moi lequel, je chercherai. Il y en a tellement. Oui, peut-être. D'un poète anglais, Henley. Tu es Pelé, mon prof de père, émouvant, décalé. Je ne me souviens que des deux derniers vers, c'était... Attends. Pause longue, soupir, surréalisme de la scène. Je ne sais plus. Ça finit par « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Tu trouveras, tu crois ? J'ai promis. Qui me ferait manquer à ma promesse ?» Maria et Rosée m'attendaient, assis dans leur cuisine, les yeux pleins de questions que seule leur délicatesse empêchait. Maria, toujours bavarde et prompte à s'indigner, Maria ne disait rien. J'aurais voulu parler, exorciser la peine, mettre des mots sur l'étendue de la désolation. Maria m'a dit que tu essaierais de voir ton père aujourd'hui. Josée questionnait enfin, doucement. J'ai tenté de dire. Le père de Maria m'a écouté raconter ta douleur, ta demande, mon irréalisable promesse. De ta nuit, tu espérais les mots retrouvés du poème. Ton attente, je n'aurais pu supporter d'y faillir. J'expliquais le front baissé, la voix durcie, prête à mordre, avec la peur de n'être pas compris, que l'on te prenne pour un fou, moi également. Enfin, j'ai levé les yeux vers lui. J'ai vu les yeux remplis de larmes qu'il ne cherchait même pas à retenir. Ce regard éperdu, un air de si proche humanité, de si grand désarroi, puis ces mots lâchés d'un ton sourd, voilé par l'émotion. On ne pourra peut-être faire que ça pour lui, mais ça, crois-moi, on va le faire. Tu m'entends, Pablo, je te le promets, non, je te le jure. Tous les poèmes que je pourrais trouver, tu les auras. Ces deux livres, on peut les rapprocher de 1984 et de Fahrenheit 451, que je vous suggère de lire également.
L'Oiselire, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve dans 15 jours. C'est Annie aujourd'hui qui vous a présenté et Charlotte à la réalisation. Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en médiathèque et s'achètent en librairie.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres.